Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va.
Je continue moi-même à être étonnée en fait des résultats.
Ah ouais.
Oui. Oui, parce que en fait même le thérapeute n'a pas de contrôle sur ce qui se passe. En fait, c'est simplement l'inconscient de la personne. C'est une métaphore qui est vraiment pas belle, mais que je trouve assez juste. C'est comme, tu sais, quand on a un ordinateur qu'on remet à jour, le truc, ça tourne, on ne sait pas ce qui se passe, et ça actualise les choses. Je dirais qu'une séance d'hypnose, c'est à peu près ça, en gros.
L'hypnose, on en parle beaucoup, et personnellement, je n'y croyais pas. Mais alors, pas du tout, du tout. Et puis, j'ai rencontré des gens pour qui ça a marché. Alors, j'ai voulu creuser le sujet, tout simplement, avec une de mes très très bonnes amies qui a décidé de devenir hypnothérapeute après une carrière durant laquelle nous nous sommes rencontrés. Elle a accepté de prendre le micro et honnêtement, c'était pas acquis d'avance parce qu'elle attache une très grande importance à respecter non seulement sa pratique, mais également la confidentialité qui s'y rattache. Vous allez pouvoir le constater par vous-même, je pose des questions toutes bêtes et j'espère que ça vous sera utile si, tout comme moi, vous aviez une forme de réticence sur le sujet. Avec elle, on évoque les origines de l'hypnose, la thérapie au sens large qui relie corps et esprit, l'état de pleine conscience, les maux de notre époque, le charlatanisme dans ce secteur, la PNL et enfin ce qu'implique une reconversion pour devenir sa propre patronne. Elle ne vend rien, elle explique tout simplement ce qu'elle fait pour démontrer que l'hypnose a bel et bien un impact positif. Et j'insiste pour dire que c'est important pour moi de soutenir des femmes entrepreneuses qui vont changer de voie pour trouver la leur. Allez, maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à Alix Georges, hypnothérapeute. Alix, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. J'ai envie de préciser quand même qu'on est amis,
oui,
qu'on s'est rencontrés durant nos carrières respectives. Et j'ai assisté en fait à ta reconversion, que j'admire beaucoup. Mais je vais aller à l'essentiel en te demandant en introduction de te présenter si c'est possible,
oui,
et de nous expliquer ce que tu fais.
Alors, déjà, je souhaite te remercier pour ton invitation. Merci beaucoup.
Merci
de ton amitié aussi. Et donc, je m'appelle Alix Georges, j'ai 34 ans et je suis hypnothérapeute à présent. Donc, je te remercie de me donner l'opportunité de parler d'hypnose, puisque l'hypnose, je suppose, nourrit pas mal de fantasmes, nourrit pas mal de...
C'est sûr.
Peut-être méconnaissances. Et je trouve que c'est intéressant aujourd'hui de donner l'opportunité à tes auditeurs d'en savoir un peu plus sur ce que c'est que l'hypnothérapie.
Exactement, oui. D'autant que je suis très curieuse de savoir un peu plus de choses à ce sujet.
Alors, l'hypnose, en fait, il faut savoir que c'est un état très naturel. Comme je te disais, ça a tendance à susciter pas mal de fantasmes du fait de ce qu'on appelle l'hypnose spectacle, qu'on peut voir à travers les spectacles de Mesmer, qu'on a pas mal tendance à voir à la télé, etc. L'hypnose thérapeutique est très différente. L'hypnose, c'est quoi ? C'est un état de conscience modifié. C'est un état naturel qu'on expérimente tous 1h30 par jour en moyenne. Par exemple, quand le temps passe plus vite, le temps passe plus lentement, en fait, on est dans un état d'hypnose. Si, quand on regarde un film, on est dans un état d'hypnose. On est dans une absorption, focalisation sur une histoire. Effectivement, on est là sans être là. C'est un état d'hypnose.
Et quand on lit aussi un bouquin ?
Oui, bien sûr. La fiction, l'imaginaire suscite ce type d'état.
Okay.
Et en fait, c'est un état qui est relaté depuis... Je vais pas faire un cours sur l'hypnose, mais on sait que dès l'époque des Égyptiens, notamment, il y a eu des découvertes sur les stèles de Ramsès II où on voyait des cas d'hypnose thérapeutique qui étaient déjà décrits parce que dès l'époque, on avait compris que cet état naturel, complètement naturel, était un état de réceptivité particulier où les défenses du quotidien, puisque c'est vrai qu'au quotidien, on a tous tendance à utiliser des défenses naturelles, psychologiques, ces défenses ont tendance à lâcher pour permettre d'accueillir autre chose. Et c'est ce fameux autre chose qu'il est intéressant de travailler thérapeutiquement. Et c'est pour ça que, à mon sens, l'hypnose est une thérapie très intéressante parce qu'elle permet d'accéder à un changement intérieur plus vaste. On a tendance à dire que le vrai changement ne peut pas exister finalement sans cette espèce d'ouverture, en quelque sorte, à soi-même. Finalement, le postulat de base de toute thérapie, c'est le fameux connais-toi toi-même,
bien sûr,
qui était écrit dès l'époque des Grecs. voilà, la thérapie par l'hypnose finalement repose sur ces grands courants de pensée, hein. Rien de mystique, rien de particulier, c'est simplement un état d'ouverture.
Ok.
Pour répondre, je sais pas si ça répond bien à ta question.
Oui, ouais, bah oui. Mais je suis quand même intéressée par à ce que tu nous en dises un peu plus sur ton parcours, à savoir on va pas rentrer dans les détails de ce que tu as fait auparavant si tu n'as pas envie d'en parler, mais c'est plus la formation que tu as pu suivre, enfin voilà, la démarche que tu as eu à faire pour devenir qui tu es maintenant.
Alors, j'ai évidemment aucun problème à parler des grandes lignes. Hein. De toute façon, c'est même écrit sur mon site internet. Hein. Ouais. Donc, j'ai suivi en fait à la base des études littéraires, hein, une classe préparatoire littéraire quand j'avais donc, après mon bac, 18 ans, pendant 3 ans. Mmh. J'ai été ensuite admissible à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Mmh. J'ai pas été admise et j'ai été admise à HEC. Donc, mon parcours a complètement bifurqué. Et ensuite, par la suite, j'ai vraiment suivi un parcours classique. D'ailleurs, on s'est rencontrés dans le monde de l'entreprise. Hein. Ouais. Et j'ai accompagné des dirigeants pendant un certain nombre d'années. Mon parcours professionnel, je dirais, c'était ça. Mmh. Et en parallèle, en fait, depuis l'âge de mes 16 ans, j'ai suivi une psychanalyse qui a duré 13 ans. Mmh. Et effectivement, je dirais qu'aujourd'hui, la façon dont moi, j'envisage l'hypnose. Et encore une fois, c'est ça qui est très intéressant avec l'hypnose. Et je pense qu'on en parlera par la suite. Ouais. C'est que comme c'est une profession non réglementée, qu'il n'y a pas encore de diplôme universitaire, enfin on va peut-être en parler un peu après. C'est une profession qui peut accueillir des profils différents. On peut dire que c'est un des aspects positifs, c'est qu'il y a des gens qui viennent de toutes parts et il y a autant de façons finalement de faire de l'hypnose que de personnalités. La mienne, en tout cas la façon dont j'envisage ça, et toutes les autres sont infiniment respectables, bien sûr. La mienne, c'est effectivement peut-être d'associer un œil un peu analytique, assez psychothérapeutique, à ma façon d'aborder l'hypnose. Okay. En ce sens, ça se différencierait peut-être un petit peu plus de techniques beaucoup plus proches de la thérapie très brève, thérapie type TCC, thérapie cognitive ou comportementale. On en parlera peut-être un petit peu plus après. Hein. Juste pour finir sur mon parcours, la vie a fait que, voilà, quand je suis arrivée à un moment de ma carrière, j'ai eu ce besoin, je pense comme plein de gens,
de quête de sens,
etc. J'ai eu moi-même une rencontre avec un hypnothérapeute où j'ai pu vivre, vraiment vivre hein, au niveau physique, inconscient, puisque l'hypnose a comme caractéristique de vraiment associer quelque chose de physiologique très fort à l'expérience. On en parlera après. Voilà, j'ai vécu cette transformation en parallèle hein, de mon analyse et je me suis dit « Waouh, cet outil est puissant ». J'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de me lancer. Je sentais que j'étais arrivée à maturation, en quelque sorte. Hein, et je me suis formée dans un institut qui s'appelle l'IFHE, Institut français d'hypnose ericksonienne et humaniste, qui est, à mon sens, l'institut le plus réputé en France, en Europe, qui est un institut qui a été monté par un couple qui s'appelle Olivier Lockhart et Patricia D'Angeli, à qui effectivement je dois toute ma formation théorique sur l'hypnose et je serais ravie d'en parler plus tout à l'heure.
Mais justement, on peut peut-être parler des différents courants, alors en ayant bien entendu une problématique de vulgarisation possible, tu vois, parce que je me doute que c'est assez compliqué d'en parler, mais est-ce que tu peux nous dire les grands courants de ton travail, enfin, dans quoi tu inscris ton travail au sein d'un ensemble général ?
Avec plaisir. Alors en fait, donc l'hypnose, comme je te dis, finalement a toujours existé, hein, puisque voilà, je te décrivais le cas de Sestel à l'époque de Ramsès II. Ensuite, on a retrouvé aussi, enfin, Socrate a décrit hein, des séances qui pourraient ressembler à des séances d'hypnose avec ce qu'on appelle le terpnos logos, où en fait c'était un discours très ennuyeux qui pourrait évoquer d'ailleurs celui de la pitié hein, dans les temples à l'époque, où en fait on ennuyait en quelque sorte les gens pour les permettre d'entrer dans un état de réceptivité particulier. Donc on sait que c'est quelque chose qui a toujours existé. Hein. Les chamans aussi, on a découvert beaucoup de choses qui se rapprocheraient finalement hein, d'un état d'hypnose, encore une fois, dont le seul but est d'ouvrir hein, l'inconscient de la personne. Néanmoins, juste pour répondre à ta question sur les courants, l'hypnose telle qu'on la connaît aujourd'hui a vraiment été introduite, scientifisée, enfin je ne saurais pas trop quel mot utiliser, mais par Milton Erickson. Donc, je ne sais pas si ce nom t'évoque quelque chose.
Oui, ça m'évoque quelque chose.
Milton Erickson, donc, c'était un psychiatre américain qui est né au début du XXe siècle, qui était un personnage très très particulier, hein, et qui a vraiment utilisé, avant tout le monde, les techniques d'hypnose dans un cadre hospitalier. Et on a pu remarquer que, je vulgarise, hein, vraiment.
Oui, bien sûr.
En fait, il a eu des cas extraordinaires. D'ailleurs, j'invite tout le monde à lire, hein, ça s'appelle les Collected Papers, les descriptions de cas de Milton Erickson. Après, c'était un thérapeute hors du commun, c'est-à-dire que lui-même n'a jamais théorisé, n'a jamais écrit. Ça a justement été fait par la suite, en fait, de ce thérapeute incroyable, avec tout le courant PNL, hein, oui. Donc, ouais. Il y aurait plein de noms à citer, hein, là-dessus, Daniel Arros, Rossi, bon, bref, où on a compris que cet outil est, Bandler et Grinder, hein, juste pour clôturer sur la PNL, on a compris que cet outil pouvait, en fait, devenir une thérapie pour les uns et pour les autres. Donc, il y a un courant qui s'est créé autour de ça, très lié, je dirais, dans un domaine très, très différent, mais également à la naissance très intéressante de la psychanalyse d'un autre côté, avec Lacan, toute cette période, années 70, très, voilà, très, très riche, hein, d'un point de vue thérapeutique, il s'est passé plein de choses. Et c'est à partir de ce moment-là que l'hypnose est entrée à l'hôpital. Voilà, on connaît le cas des anesthésies, hein, par l'hypnose, on sait, hein, aujourd'hui, c'est à Liège, hein, au CHU de Liège, qu'ils ont commencé à vraiment, voilà, anesthésier les gens sous hypnose.
C'est incroyable. Oui. Moi, ça me sidère.
Oui, mais vraiment, on fait un Google, YouTube, on regarde une anesthésie sous hypnose, c'est finalement extrêmement simple, courant, rentré dans les mœurs. Enfin, il y a vraiment, et d'ailleurs, il y a une chaire à la Pitié-Salpêtrière, tenue par des médecins, faite par des médecins. Encore une fois, je prétends pas à ça, je suis pas médecin, et je laisse bien ça pour les médecins, c'est important, hein, de préciser. Voilà, donc il y a eu tout ce courant, et on a compris que d'un point de vue thérapeutique, on pouvait faire ce qu'on appelle un peu des miracles. C'est un petit peu le fantasme aussi qu'on a autour de l'hypnose. C'est que l'hypnose est capable de modifier très rapidement quelque chose chez quelqu'un. Ça reste plus compliqué que ça. Ça reste une alliance un peu thérapeutique. Et d'ailleurs, à ce titre, ça m'intéresse simplement de citer en fait une citation, hein, de Milton Erickson que je trouve très intéressante, qui dit « L'hypnose, c'est une relation pleine de vie qui a lieu dans une personne et qui est suscitée par la chaleur d'une autre personne. » Tout ça, en fait, pour expliquer que c'est une rencontre, finalement, l'hypnose. Ouais. Hein, c'est une rencontre. Milton Erickson, encore une fois, n'a jamais théorisé, n'a jamais... Mais comme Freud à l'époque, hein, enfin, si, Freud a théorisé, mais comme tous ces grands thérapeutes qui ont compris que quelque chose se passait dans la relation thérapeutique. Hein. Donc ça, peut-être qu'on y reviendra
c'est
un petit
confiance,
peu après.
Enfin, ouais, il y a un truc qui se passe, qui ne peut pas se passer forcément avec tout le monde.
C'est ça, c'est ça. Et donc, pour terminer sur les courants, donc voilà, il y a eu tout ce courant dit hypnose ericksonienne ou nouvelle hypnose, hein, c'est ce que je viens de te décrire. La particularité de ce courant, je ne vais pas être trop technique, mais c'est qu'en fait, la façon dont c'était utilisé, c'est qu'on dissocie la personne. C'est typiquement ce qui est utilisé pour les anesthésies à l'hôpital, quand on dit, tout d'un coup, vous imaginez que vous êtes dans un souvenir agréable, etc. On dissocie la personne, c'est-à-dire que la personne, elle est là sans être là. C'est le même principe que quand on regarde un film. Hein. On part, en quelque sorte. C'est un principe de dissociation qui fait que, pour donner l'exemple de l'anesthésie, le corps ne va plus ressentir, finalement, ce qui se passe. C'est de la dissociation. Hein. C'est vraiment...
C'est incroyable.
C'est d'ailleurs, pour l'hypnose spectacle, ce n'est que de la dissociation, hein, finalement. La personne n'est plus là, en quelque sorte. Et en fait, il y a eu un courant, après ça, qui, à mon sens, est très intéressant, qui a émergé, qui s'appelle l'hypnose humaniste, donc qui a été inventé par Olivier Lockhart et Patricia D'Angeli, à qui je pense qu'on doit beaucoup, hein, aujourd'hui. En fait, quand on fait donc une hypnose dite dissociative, on ramène la personne, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on dit à la personne, et maintenant, c'est le fameux « vous revenez ici et maintenant ».
Okay.
Ils ont testé de ramener la personne, mais en poussant un petit peu. C'est-à-dire, en pas simplement en disant « ici et maintenant », mais en validant à la personne tout ce qui existe autour d'elle. C'est-à-dire en la mettant dans un état de conscience augmentée. En fait, c'est un état de pleine conscience. Alors aujourd'hui, c'est très à la mode, la pleine conscience. Mais c'est-à-dire en explicitant, vous êtes là, vous sentez vos jambes, vous voyez tel et tel et détail autour de vous. C'est-à-dire, on plus que ramène la personne. Et en fait, je ne sais pas si c'est clair. Hein.
Si, c'est clair, mais c'est à l'inverse de ce que tu disais sur le fait de partir.
Ah bah, c'est l'inverse.
Le fait d'être hyper présent.
On réassocie la personne à elle-même.
D'accord.
Et en fait, on a découvert, enfin, ils ont découvert que cet état mettait aussi en transe, puisque transe est le mot, hein, pour parler de l'état d'hypnose, en fait.
Okay.
Sauf que c'est une transe différente. C'est une transe de pleine conscience. On est complètement là. Et en fait, il y a eu plein de tests, hein, qui ont été faits, des tests IRM, hein, pour comprendre les ondes cérébrales, ce qui se joue à ce moment-là. En fait, on est dans des ondes cérébrales qui sont complètement différentes, qui sont dans des états dits de pleine conscience, qui sont finalement proches de la méditation, enfin, de tout ce qu'on connaît, de ce que les gens recherchent à travers le yoga. Enfin, voilà, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est très cherché, hein, par les uns et par les autres. Et cet état également permet l'ouverture, la réceptivité, le soin, la connaissance de soi-même,
mais
la guérison.
Ok, oui. Mais du coup, c'est équivalent ?
Oui, mais Je suis là justement pour essayer d'expliquer.
Mais tu vois, qu'est-ce qui est le plus efficace du coup ?
Alors, c'est vraiment différent. Personnellement, mais c'est vraiment une appétence, j'ai tendance à trouver l'hypnose humaniste dite de pleine conscience beaucoup plus efficace, plus puissante.
D'accord.
Parce
okay.
que c'est plus fort, la personne est là. Et c'est vrai qu'après une séance d'hypnose comme ça, waouh, il y a un effet, on est vraiment là, on se sent ancré, on se sent dans sa zone. Enfin, voilà, on est dans sa zone de confort, dans son aura. Il y a vraiment quelque chose de fort, en fait, qui s'installe. L'hypnose dite dissociante, elle est très intéressante aussi pour des problèmes plus mécaniques, en fait. C'est-à-dire, si par exemple, je donne l'exemple d'un arrêt de tabac. Si par exemple, il y a juste besoin... Un arrêt de tabac peut vouloir dire plein de choses. Hein. Mmh. On peut en parler, justement.
On en parlera après,
oui. Ouais. S'il y a juste besoin de réorienter un comportement, c'est-à-dire que derrière l'arrêt de tabac, je dirais qu'il n'y a rien d'existentiel. La personne fume parce qu'elle fume, voilà, par mimétisme, elle a commencé parce que ses amis ont commencé. Mais il n'y a rien qui se cache, en quelque sorte, derrière. Hein. Il n'y a pas de pathologie. Mmh. On fait une séance d'hypnose dissociante. Clic, on réoriente le comportement. C'est très facile, c'est très mécanique. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin.
Okay.
Pour finir, hein, filer la métaphore sur cet exemple d'arrêt de tabac, si on découvre pendant la discussion préalable avec le patient que pendant
ça
cet arrêt de tabac, voilà, que par exemple la personne, c'est très très courant, hein, arrive, elle a 45 ans, il y a un truc qui fait qu'elle n'arrive pas à arrêter de fumer, bon, on essaie de creuser et en fait on comprend que son père est mort à 45 ans d'un cancer des poumons. Donc voilà, qu'il y a une espèce de remontée inconsciente.
Et là, tu bascules en humaniste.
Oui.
Enfin, en...
En humaniste,
oui.
En pleine conscience. En parce pleine qu'il conscience. Y a besoin de quelque chose de plus profond.
Un truc.
C'est ça, exactement. On va travailler cette loyauté invisible au modèle paternel. C'est beaucoup plus facile.
C'est beau, ça, la loyauté invisible au modèle paternel.
Oui, c'est souvent ce qu'on remarque, hein, en tant que thérapeute, c'est qu'on reste loyal à des modèles qu'on a reçus. Et l'intérêt de la thérapie, c'est justement de transformer cette loyauté qui s'est identifié à quelque chose de mélancolique, en quelque sorte. Voilà, on s'identifie à son père en répétant un symptôme. On essaie de le réorienter de façon à ce que, justement, ce ne soit plus lié au symptôme, mais ce soit lié à un lien d'amour, à un lien autre.
Plus libre.
Exactement.
Plus conscient.
Voilà.
Alors justement, est-ce que tu peux nous parler des différents cas que tu traites ?
Alors déjà, l'hypnose a une approche dite par symptôme. C'est-à-dire qu'en général, on vient consulter pour un symptôme. Hein.
Okay.
Donc, pour juste parler des symptômes, et après j'expliquerai justement comment ça se passe. Hein. Pour parler des symptômes, encore une fois, il ne faut pas avoir peur de ce mot. Hein. C'est juste pour expliquer en gros les applications thérapeutiques. Hein. Bon, les plus connus sont arrêt de tabac, en général ça va très très vite. Hein. Le poids, c'est vraiment quelque chose que j'ai l'habitude aussi de traiter. Donc ça c'est pour, disons, tout ce qui est...
Le poids, l'excès de poids ou le
sous-poids ? Ça peut être les deux.
Sous-poids. Enfin,
ça peut vraiment être les deux, pathologies liées au poids. Mais le poids, encore une fois, ça peut être ce que j'appelle les 3-4 kilos de maillot qu'on a envie de perdre avant l'été. Comme ça peut être vraiment plus pathologique, ou anorexie, ou troubles comportementaux, alimentaires, ou les kilos qui s'installent dans le temps.
Bien sûr.
Okay. Voilà, le poids, ça veut dire plein de choses.
Il y a beaucoup d'affect dans la relation à l'alimentation.
Oui, oui. Donc voilà, ça, il y a les allergies. Les allergies, c'est très médical, hein, et c'est vrai que ça marche extrêmement bien.
Les allergies, t'as déjà travaillé sur des cas d'allergies ?
Personnellement, c'est pas mon truc, parce que voilà, c'est pas ce que je préfère. Mais oui, je connais le protocole des allergies, ça marche hyper bien. Je connais plein de thérapeutes qui...
Genre allergie au pollen, ça peut marcher ?
Ah oui, ça marche très très bien.
Ah ouais.
On enlève les allergies et c'est même au point que en fait on demande à chaque fois à la personne d'aller chez un allergologue avant, hein, pour bien connaître la substance,
bien
parce qu'on peut pas travailler sans connaître la substance. Et après, quand elle se fait retester par un allergologue, elle n'est plus allergique.
C'est incroyable.
Oui, les capacités. Tout ça repose, hein, finalement sur le fait que l'inconscient porte en lui une capacité de transformation de réponse, ce qu'on pourrait appeler un répertoire d'apprentissage interne qui est infini et vaste. Enfin, ça repose vraiment sur le fait qu'on a en nous nos propres ressources, propres solutions. Bon, on a souvent besoin d'un tiers pour nous aider à réorienter les choses. Parce que l'allergie, c'est quoi ? C'est en fait une anomalie du système immunitaire, hein, à une substance. On réoriente les choses. C'est simple, en fait.
Ça paraît super simple, oui.
Oui, mais c'est assez simple. Hein.
Alors après, du coup, après le poids, le tabac, les allergies, il y a quoi d'autre ?
Et après, bon, il y a tout ce qui est vraiment, je dirais, lié à la qualité de vie. Et je pense que j'en oublie plein, hein, mais ce qui est lié vraiment à ce que j'appelle la qualité de vie, le développement personnel. Donc, je reçois beaucoup pour les deuils, hein, la question du deuil.
Les divorces.
les divorces, en fait la question de la séparation de façon générale.
D'accord.
Question également de ce qu'on pourrait appeler l'équilibre masculin-féminin. On sait qu'on vit dans des sociétés où voilà, il y a une forme de complexité par rapport à ça, donc on va rééquilibrer les choses en quelque sorte. La question, j'aime beaucoup travailler aussi sur j'aime beaucoup travailler le féminin en général, donc je travaille pas mal les fertilités dites psychologiques, les infertilités dites psychologiques. Voilà, donc ça marche très bien aussi, hein.
C'est
on
vrai?
Va déverrouiller Oui.
T'as déjà eu un cas concret de gens qui s'est débloqué à ce, de personnes qui s'est débloqué à ce sujet?
Oui, c'est-à-dire des femmes qui n'arrivent pas à tomber enceinte. Il n'y a pas de pathologie, on demande toujours.
Il y a un blocage psychologique.
Oui. Ouais. Il y a, par exemple, je ne parle pas de cas en particulier, mais on a remarqué que c'est parfois, parce que la mère a fait beaucoup de fausses couches avant. Enfin, j'en sais rien. Il y a autant d'explications. Oui, quand c'est vraiment psychologique, on peut déverrouiller les choses et ça marche très bien. Mmh. Oui, il y a des bébés qui sont nés. Non, après, il y a les phobies, les vertiges.
La peur de l'avion, des trucs comme ça.
Oui. Ça, c'est en général assez facile. Enfin, facile. Ça dépend. Peur de l'avion, ça peut vouloir dire plein de choses. En fait, c'est ce que je voulais expliquer sur le symptôme.
Ouais.
C'est qu'on arrive par rapport à un symptôme et en fait, toute la clé, et on dit d'ailleurs qu'une vraie séance d'hypnose réussie repose à 80% sur ce qu'on appelle l'anamnèse. L'anamnèse, c'est la fameuse discussion de départ qu'on va avoir entre le patient et le thérapeute. Toute la clé repose là. C'est-à-dire qu'on va venir pour un symptôme, à part les allergies.
Et après, il faut dérouler le fil rouge, en fait.
C'est
plot.
Ça. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'à part les allergies, il n'y a aucun protocole par symptôme. Les allergies, c'est vrai, il y a un protocole allergie. Voilà, c'est un truc médical. Le reste, on peut soigner un symptôme de mille et une façons parce que ça dépend de ce qui se cache derrière. Souvent, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux patients. Quelqu'un va, j'en sais rien, se dire « Oh là là, j'ai peur de l'avion », etc. J'essaie de dire « Mais en fait, ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être un eczéma, un psoriasis. C'est une somatisation, en quelque sorte. » Donc, on va essayer de comprendre ce qui se joue derrière ça et d'aller à la racine profonde. Voilà. Et le fait d'aller à la racine, ça déverrouille. Ça donne un espace différent. Et ce qui intérieur, ce qui est très très important, c'est la grande question pendant l'anamnèse, c'est comment repositionner les choses. C'est vraiment la question du déplacement. C'est-à-dire que l'inconscient a une forme d'écologie intérieure. Donc si on a un symptôme, il y a un équilibre qui repose sur ce symptôme. Si on ne fait qu'enlever le symptôme, il va y avoir un déséquilibre intérieur. Je ne sais pas si c'est clair. Du coup, on va demander au patient vers quoi vous souhaitez réorienter les choses finalement. Et en fait, c'est magnifique parce que c'est la question du désir. C'est finalement comment ça va se transformer, cet équilibre intérieur, comment vous allez le réorienter pour vous, pour votre vie. Et on projette la personne dans l'avenir. C'est, personnellement, je trouve ça très efficace, très beau et extrêmement libérateur pour la personne.
C'est très proche de la psychothérapie, en fait.
Non, mais c'est de la psychothérapie.
C'est de la pure psychothérapie.
C'est de la thérapie dite brève, c'est-à-dire que le but de cette fameuse anamnèse, elle est très orientée symptômes.
Ouais. Donc on ne fait pas des travaux qui vont durer des... Enfin, tu n'incites pas les gens à créer de la récurrence?
Non. Alors, je ne veux pas dire ça parce que c'est vrai qu'il y a aussi des patients maintenant que je reçois régulièrement parce que la thérapie est ainsi faite. Il n'y a pas de façon toute faite de faire de la thérapie. Mais en général, la personne arrive pour un symptôme. C'est une thérapie orientée solution. Donc on va au plus vite, en quelque sorte, réorienter le symptôme.
Okay.
En général, ça dure 2, 3, 5 séances grand max.
Okay.
Après, ce qui est très intéressant, et c'est sûrement mon œil plus analytique, puisque j'ai quand même fait 13 ans d'analyse, donc c'est d'aller plus loin, d'encore orienter les choses, de faire émerger de nouveaux désirs. Et c'est vrai que j'ai des patients, du coup, que je reçois tous les mois, c'est pas du tout de l'analyse classique, pour aller plus loin, tout simplement.
Mais alors, du coup, est-ce que, même si ça peut paraître un peu anecdotique, et j'ai compris que, t'as une culture incroyable, je suis un peu impressionnée, mais est-ce que, sans faire de la... du gadget, est-ce que tu as des résultats concrets à nous citer? Tu vois, enfin, tu en parlais, l'arrêt du tabac, les problèmes de poids, etc. Mais est-ce que tu peux, prenons l'arrêt du tabac. Est-ce que c'est une séance? Est-ce que c'est deux séances? Est-ce qu'il faut trois séances? Est-ce que
du concret.
T'as observé, en fait, concrètement, tu vois, qu'est-ce que t'as observé de qui toi-même t'as pas étonné parce que t'as compris, tu pratiques une science, mais enfin, tu pratiques quelque chose que tu connais. Mais est-ce que t'as quelques exemples concrets à nous
donner? Oui, bien sûr. Alors sache que je continue moi-même à être étonnée en fait des résultats.
Ah ouais.
Oui, parce que en fait, même le thérapeute n'a pas de contrôle sur ce qui se passe. En fait, c'est simplement l'inconscient de la personne. C'est une métaphore qui est vraiment pas belle, mais que je trouve assez juste. C'est comme, tu sais, quand on a un ordinateur qu'on remet à jour, le truc, ça tourne, on ne sait pas ce qui se passe. et ça actualise les choses. Mmh. Je dirais qu'une séance d'hypnose, c'est à peu près ça, en gros. Mmh. C'est une espèce de grosse actualisation. Mmh. On a des protocoles, on sait ce qu'on fait. Mmh. Mais en fait, on ne sait pas ce qui se passe parce que bah, c'est la magie humaine. Hein, c'est ce qui fait que... Bah,
le peu de connaissances, paraît-il, du cerveau, en fait, des ressorts du cerveau.
Est-ce que c'est le cerveau ? Est-ce que c'est l'inconscient ? Mmh. Comment différencier les choses ? Est-ce que c'est cette espèce d'alliance conscient-inconscient ? En fait, même moi, je ne sais pas, je ne saurais pas dire, en fait. Hein. Mmh. Mais oui, c'est objectivement assez merveilleux. Pour le tabac, alors le tabac, en général, ça va assez vite. C'est parfois une séance, parfois deux. J'ai jamais eu trois.
Hein. Il n'y a pas eu de rechute après ?
Ah ben,
t'as des cas de rechute.
C'est la grande question. C'est-à-dire que si la personne, c'est ce que je t'expliquais sur comment on va réorienter le symptôme. Mmh. Hein, oui, on va énormément accentuer en tant que thérapeute pendant la fameuse anamnèse la question du désir. Hein. Vers quoi le patient va décider de se réorienter. Arrêter de fumer, c'est pas rien. C'est pas un acte anodin pour quelqu'un qui a fumé depuis 20 ans.
Il faut avoir envie, je crois quand même. Non.
Ah ben alors là, ouais. C'est sûr que
si t'es pas déterminé, ça peut pas marcher.
Non. Ouais. J'ai moi-même des personnes dans mon entourage très proche qui continuent à fumer.
Mais moi, j'y arrive toujours pas.
Bah voilà, parce que et je ne peux rien dans le sens où s'il n'y a pas de désir, ça ne marche pas. Et quelque part, je trouve ça très réjouissant sur le fait que l'hypnose n'a pas de pouvoir sur la personne si la personne ne veut pas. Ça ne va jamais à l'encontre des valeurs de la personne. Hein. Et c'est tout à fait légitime d'avoir encore besoin d'arrêter de fumer parce que ça correspond à un équilibre personnel. On vient quand on en a.
Quand on est prêt.
Quand on est prêt, ouais. Quand on est un peu... on a un peu tout essayé. En général, on arrive dans le cabinet de l'hypnothérapeute quand on a un peu tout essayé.
Et tu parlais tout à l'heure de l'aspect physiologique puissant, c'est-à-dire... Oui. Est-ce qu'on peut détailler ?
Oui, bien sûr. Surtout que c'est une question qui m'intéresse énormément, surtout dans l'hypnose dite humaniste, hein, dite de pleine conscience, qui n'est pas une hypnose très confortable, hein, d'ailleurs, physiologiquement. Hein, parce que c'est vrai que l'hypnose dissociante, c'est l'image qu'on a. On n'est pas du tout endormi, mais on est là sans être là. C'est confortable. L'hypnose dite associée, hein, de pleine conscience, c'est quelque chose... On est très là. Hein, y a vraiment le corps qui est en jeu.
Ça
on a les deux
choses.
Pieds par terre. Mmh. Et c'est vrai que moi, personnellement, j'aime beaucoup accentuer le côté physiologique parce qu'il y a cette espèce de connexion corps-esprit qui est ultra puissante, ultra forte, qui va extrêmement loin. On sent physiologiquement que ça bouge, son inconscient. On va travailler pour ça avec des symboles. On va pouvoir ressentir des choses un peu symboliques à l'intérieur de son corps.
C'est-à-dire, tu as des gens qui se mettent à pleurer, des gens qui ont mal au ventre ou des choses comme ça, c'est ça que tu veux dire ?
Oui, il y a quelque chose qui va se libérer physiologiquement. Par exemple, pour la question... voilà, c'est un cas, c'est pas le mien. Hein, mais par exemple, pour la question de la fertilité, donc c'est un cas qui est public, hein, qui est raconté par Olivier Lockhart. Il y avait une femme qu'il a mis en état de conscience augmentée, à qui il a demandé de sentir ce qui se passait dans son ventre. Et c'est vrai que quand on est en état de conscience augmentée, bah, on sent vraiment ce qui se passe dans son ventre. Il y a un monde symbolique qui va s'ouvrir à nous, qui est un peu inexplicable tant qu'on l'a pas expérimenté, c'est vrai. Et elle a senti un glaçon. Voilà, c'était ce qui se passait. Pour elle, c'était vrai. Hein. Quand on est dans ce type d'état, c'est vrai que c'est vrai. Et donc, bah, c'est de la thérapie symbolique simple. Hein. C'est finalement assez simple. Il lui a demandé en quoi vous souhaitez transformer ce glaçon. En pelouse, en lieu d'accueil, en jardin.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Intérieur, voilà, elle a choisi sa métaphore, ce qui lui correspondait. Je ne sais plus d'ailleurs exactement ce que c'est. Et elle est tombée enceinte. Donc ça pour expliquer que oui, il se passe quelque chose de physiologique. Quand on sent le glaçon, on le sent vraiment.
C'est
quand
incroyable.
On sent une chaleur. Et c'est vrai que l'inconscient, je pense, à mon sens, on peut le sentir physiologiquement, on peut déverrouiller les choses. D'ailleurs, souvent, expliquer, quand on a quelque chose qui bloque, une espèce de blessure intérieure, c'est qu'on a une partie de nous qui est un peu gelée, en quelque sorte, un peu entravée. La grande vertu de ce type de thérapie qui allie corps-esprit, c'est que ça va remettre du flot un état naturel. Je ne sais pas si c'est clair.
Non, mais c'est très clair. C'est très clair.
Et c'est vrai que ça se rapproche beaucoup, finalement, du yoga, de toutes ces thérapies.
Oui,
ce n'est pas de la thérapie, le yoga, quoique. On pourrait
gloser
là-dessus. Hein.
Oh.
Oui, je pense aussi que c'est très thérapeutique.
Imaginons, je suis complètement récalcitrante à l'idée d'aller voir... une ou un hypnothérapeute. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu dirais, de manière assez simple, sans rentrer dans les détails, hein, mais pour me convaincre? En fait, j'ai envie de parler des gens qui sont pas forcément pleins de bonnes intentions. Oui. C'est-à-dire, il y a forcément une appréhension, peut-être, est-ce qu'il n'y a pas des charlatans? Enfin, tu vois, on peut se poser ce genre de questions, parce que justement, tu le disais, il n'y a pas de diplôme reconnu par l'État, etc. Oui. Quelqu'un qui n'y croit pas du tout, qui dit, ouais, c'est encore un truc de, c'est encore un truc d'escroc, ou je sais pas, enfin, voilà. Qu'est-ce que tu peux dire?
Oui, c'est une question très légitime, hein, et je te remercie justement de me la poser. Alors. Bon, il y a deux aspects hein, dans ta question.
Oui.
Non, mais au contraire, c'est riche et c'est profond. Alors, voilà, pour répondre sur la question de la personne récalcitrante en elle-même. Alors, déjà pour répondre à ça marche pas sur moi.
Ouais.
En fait, c'est faux parce que, comme je viens de t'expliquer, c'est un état qu'on expérimente tous en moyenne 1h30 par jour. C'est-à-dire que tout le monde est hypnotisable et il n'y a rien d'impressionnant à l'hypnose, à cet état, vraiment. Enfin, encore une fois, c'est très important de couper avec le fantasme de l'hypnose spectacle, qui reste de l'hypnose hein, traditionnelle, suggestion directe pure, voilà. Mais l'hypnose au cabinet, je dirais presque que c'est un peu décevant même par rapport à ce qu'on peut fantasmer en quelque sorte. Donc voilà. Ensuite, la personne qui veut pas venir, enfin qui récalcitrante. Bah en fait, c'est juste que c'est peut-être pas une thérapie pour elle, tout simplement. Hein. Et justement, c'est ça qui est très intéressant dans le monde thérapeutique, c'est qu'il y a plein de thérapies aujourd'hui. Je sais plus, je lisais un chiffre, je crois qu'il y a 700 formes de thérapies qui sont répertoriées aujourd'hui.
Ouais.
Et comme on le disait tout à l'heure, le yoga est une thérapie. Voilà, le fait même de marcher dans une forêt, je considère que c'est thérapeutique. C'est-à-dire que à chacun de trouver sa façon, en quelque sorte. Hein. Et ça repose évidemment, à mon sens, et c'est le sens de la citation d'Erickson que je disais tout à l'heure, sur une rencontre. C'est-à-dire que ce qui est important finalement dans ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, c'est la rencontre, et ça a été théorisé par Freud, hein, d'inconscient à inconscient. C'est-à-dire qu'il y a une partie de nous en tant que thérapeute qui accepte aussi de laisser son inconscient communiquer avec l'inconscient du patient. Hein. Donc c'est une alliance thérapeutique en quelque sorte.
Ouais.
C'est une rencontre.
Ouais, ouais.
Donc l'outil, j'ai envie de dire, peu importe, en fait. Voilà, là-dessus, je suis pas très...
Je prêche pas forcément pour
ma paroisse, mais parce que c'est vraiment ma conviction profonde, en fait.
Et du coup...
Et simplement, sur la question du charlatanisme, tu as raison, parce que c'est vrai que c'est une profession non réglementée, c'est-à-dire que, en fait, toi, tu peux t'installer comme hypnothérapeute, donc si, bien sûr, ce n'est pas réglementé. Par exemple, le diplôme que j'ai de l'IFHE, bon, c'est un diplôme, j'en suis ravie, mais il n'a pas de valeur en tant que tel. Alors après, c'est un label, je suis ravie, enfin, au contraire. Mais c'est un des problèmes, mais ça a une vertu, ce genre de choses, c'est que, voilà, il n'y a pas le côté académique, il n'y a pas de guerre de chapelle, il y a pas de, ça accueille des gens extrêmement différents, et tout le monde, finalement, a le droit hein, de vouloir, enfin, je trouve que c'est des métiers qui sont passionnants, et c'est légitime de vouloir s'orienter dans ces métiers. L'énorme bémol de ça, c'est que, bien évidemment, ça attire ce qu'on appelle des charlatans, des gens qui ne sont pas enfin, qui sont mal formés, des gens qui ne sont pas eux-mêmes soignés.
Mais c'est la base, qui me fait peur. C'est qu'un peu, il y a quand même ça au fond, tu vois.
Oui.
Enfin, moi, j'ai pu le ressentir. Il y a beaucoup de gens qui, pour se sauver eux-mêmes, vont tenter de sauver les autres. Mais alors, moi, ça m'a toujours fait peur parce que, tu vois, c'est comme les coachs. Enfin, je critique pas le coaching, tu vois, parce qu'il y a des coachs, il y a coach et coach, hein, c'est toujours pareil.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que souvent, dans ce genre de secteur, ce qui peut empêcher les gens d'y aller, voilà, c'est ce côté. Bon, bah demain, tout le monde peut s'improviser ça. Et puis, tout le monde le fait aussi pour se soigner soi-même. Et c'est en... Il y a une sorte... Tu parlais du déport, enfin, du fait de dire... on déplace quelque chose. Mais souvent, il y a effectivement des gens qui déplacent un mal-être personnel sur le fait de soigner celui de l'autre.
Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord, c'est un écueil. Bon, après, il faut savoir que...
Mais en même temps, c'est peut-être utile. Hein. Enfin, moi, je pense qu'au contraire, c'est que quand tu connais tes travers personnels, que tu peux fouiller ceux des autres aussi. Hein.
C'est la grande question hein, et en fait c'est ce qui se passe, c'est que tant qu'on n'est pas soi-même, qu'on n'a pas réfléchi, j'allais dire soigné ou guéri, je ne sais pas si on peut être complètement guéri.
Mais non,
hein.
Une vie,
voilà, c'est le principe même de la vie en quelque sorte, hein, les blessures, etc. C'est pas la question, c'est la question de être ouvert à soi-même, être ouvert à cette connaissance profonde et être capable de recevoir le discours de l'autre sans projeter sa propre blessure, sans projeter sa propre peur, ses propres fantasmes. En fait, c'est cette ouverture. À mon sens, ça ne peut pas exister, cette ouverture, cette capacité d'ouverture, de vraiment entendre hein, ce que l'autre nous donne, sans soi-même s'être un minimum intéressé à soi, en quelque sorte. Et c'est la grande question également, juste pour préciser, parce que ça me semble très important, de la supervision. C'est-à-dire que tous les thérapeutes, pas tous, hein, évidemment, un thérapeute aguerri de 50 ans, mais c'est pas mon cas. Tous les thérapeutes sont supervisés, hein, c'est extrêmement important. Enfin, personnellement, j'ai deux superviseurs, un superviseur hypnothérapeute et un superviseur psychanalyste.
C'était ma question d'après, en fait.
Oui. Oui, mais c'est essentiel. Et mais je fais même de l'intravision avec des amis psychologues, avec d'autres amis hypnothérapeutes, parce que c'est essentiel. Enfin, mais bien sûr, et puis c'est riche.
Mais c'était un peu la question suivante, c'était les conséquences sur ta personne. Enfin, tu vois, là, tu viens de donner une clé de réponse, mais comment on fait pour tenir ? Parce que finalement, c'est assez lourd en énergie, c'est lourd en échange, c'est lourd en... Je crois beaucoup à ça. Alors, encore une fois, je ne prétends pas... être quoi que ce soit, mais c'est vrai que moi je capte souvent les énergies des gens et du coup il y a des gens par exemple qui m'épuisent, tu vois, enfin mais ils ont rien fait hein, en particulier, mais juste à être à leur contact, je ressors de là, je suis épuisée. Donc toi, je me demande comment tu tiens en fait.
Mais en fait la question se pose pas comme ça pour un thérapeute. Bon, déjà le principe de ça, hein, parce que c'est un petit peu théorisé en quelque sorte, c'est il ne faut pas confondre sympathie et empathie. Quand on reçoit quelqu'un en cabinet, on n'est pas là pour aimer la personne, pour rentrer en sympathie. Hein. Sympathie, ça vient de sun, enfin avec. On n'est pas là pour souffrir avec la personne. On est là pour être cette espèce de tiers.
C'est intéressant,
neutre.
Cette dissociation. Pardon. Enfin, j'aime bien que tu aies mis ces deux termes en miroir, c'est pas mal.
Oui, mais parce que ça répond hein, à ce que tu me poses comme question. L'empathie, au contraire, c'est qu'on accepte d'être soi-même.
Oui, c'est intéressant.
Un objet, en quelque sorte. On est un objet de transfert, on est un tiers. C'est pas nous hein, qui sommes en jeu, en fait, à ce moment-là. Donc, de ce fait, on est capable d'entendre. Ça se pose même pas en termes d'énergie, je prends pas. La question ne se pose pas comme ça parce que on entend quelque chose du fait de notre position. Mais c'est vraiment la position du thérapeute. C'est-à-dire que toi, vu que tu me connais, tu ne me connais pas comme ça. Puisque tu me connais, voilà. Ouais. Et c'est une des raisons pour lesquelles le thérapeute n'expose pas sa vie. Enfin, voilà. Parce que, en fait, ça crée des espèces de frictions dans ce qu'on pourrait appeler le transfert ou l'alliance thérapeutique, on l'appelle comme on veut, qui font que le patient ne peut pas tout dire si jamais il en sait trop sur le thérapeute.
Bien sûr.
Donc ça, c'est très important. Et c'est la question de soi-même être capable de tout entendre. Enfin, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein.
Ouais.
Bon, quand on est dans cette posture, il y a un truc de nous qui fait que, au contraire, moi, ça me plombe pas, ça m'énergise, les séances de thérapie, même avec des cas dits un peu lourds parfois. D'accord. Au contraire, c'est très énergisant. Et c'est vrai que ce qu'il y a de très réjouissant et de très beau hein, dans ma pratique, c'est que comme c'est orienté solution, c'est vrai qu'on voit les résultats rapidement. La personne qui tout d'un coup perd du poids, la personne qui tombe enceinte. Bon, il y a une espèce d'ouverture à la vie avec un grand V, j'ai envie de dire, qui est tellement belle que c'est très énergisant.
Bien sûr.
Enfin, pour moi.
Bien sûr. Alors, encore une fois, une double question, mais finalement, c'est la même. Tu as du coup une sorte d'observatoire personnel de notre société, parce que tu dois avoir un panel de représentatif, on va dire, de ce qu'est en train de traverser la France. Enfin, pas la France. Attention, on est...
Oui, j'entends.
Pas la France, mais les Français. Enfin, voilà, les populations qui nous entourent. Mais donc, la première question, c'est quel est ton avis sur ce que tu ressens dans la société française en termes de... Alors, j'ai pas envie d'utiliser le terme de mal-être, mais bon, si les gens viennent te voir, c'est parce qu'ils ont des symptômes. On va dire ça comme ça. Et puis, la deuxième partie de la question, c'est est-ce que tu penses qu'il y a 30 ans ou 20 ans, il y aurait eu les mêmes genres de symptômes, ou est-ce qu'il y a eu un... Parce que tu es très documenté et très cultivé à ce niveau-là, mais est-ce qu'il y a vraiment des structurels sur les mal-être, tu vois, sociétaux?
Oui, c'est une question très intéressante. Ça, c'est encore une fois quelque chose qui est vraiment discuté dans le monde thérapeutique. C'est que le cabinet du psy, du thérapeute, enfin, on l'appelle comme on veut, c'est un observatoire hein, de ce qui se passe dans la société.
Ouais.
100% d'accord avec toi. Je précise, je fais une petite parenthèse qui me paraît quand même importante. À ce stade, elle n'est pas complètement liée, mais c'est important de le dire. C'est que dans mon cabinet, je ne reçois pas des personnes qui souffrent de symptômes trop dissociatifs, hein, par exemple les schizophrènes, les bipolaires.
Oui, bien sûr.
Voilà, l'hypnose, c'est pas du tout fait pour eux. Je le dis à ce moment-là parce que ça pourrait aussi parler de quelque chose de social aujourd'hui, sociétal. Bon, je te parle vraiment de ce que je vois en termes névrotiques purs, hein, en quelque sorte, névrose de société d'aujourd'hui. Hein. Ce que j'observe, de façon générale, c'est que voilà, la société dans laquelle on vit est dure. Hein. C'est qu'il y a un rapport à l'image du fait des réseaux sociaux, il y a un rapport à l'autre hein, qui parfois empêche la séparation. Enfin, on parlait notamment de la problématique de séparation, qui fausse aussi son image de soi-même, qui fait que le monde aussi, les inégalités dans lesquelles on vit, enfin, font que tout ça crée un mal-être global. Ce que je remarque aussi, C'est, je sais que c'est très à la mode avec les MeToo, etc. Et je veux pas trop rentrer dans ce truc, mais c'est quand même la question du féminin. Il y a vraiment quelque chose qui émerge aujourd'hui. Mmh. Je sais que t'as reçu aussi Camille Sfez, hein, ouais. Justement. Voilà, ouais. C'est des problématiques qui personnellement m'intéressent ouais. beaucoup. Voilà, la question de la femme, du féminin, et l'homme aussi est porteur de féminin, donc mmh, ça concerne tout le monde. Qu'est-ce que je pourrais te dire aussi? Je sais pas, est-ce que tu as des questions? C'est difficile
c'est,
pour moi.
C'est
de...
juste pour savoir si. Oui. Non, il y a aussi un autre courant, certainement, que tu dois ressentir. C'est l'envie de devenir son propre patron, oui. ou l'envie de créer sa boîte. Enfin, oui. ce que toi-même, tu as pu ressentir,
oui.
peut-être.
Oui, oui.
Est-ce que ça, c'est pas plus fréquent qu'avant, tu vois?
Si, en fait, si, j'étais en train d'y penser quand tu me posais la question, c'est la question de la quête de sens, en fait. Hein. Mmh. De toute façon, quand on vient faire une thérapie, c'est parce qu'on cherche du sens, à quelque, ouais. en quelque mmh. sorte. On cherche à soi-même résoudre son énigme intérieure, hein, puisque finalement, on est tous énigmatiques. Mmh. Voilà, pour trouver du sens, pour ouvrir les choses. Mmh. Oui, la question, moi, je reçois beaucoup d'entrepreneurs, hein, personnellement, voilà, de gens qui sont dans une thématique de développement personnel, qui cherchent à ouvrir au maximum. C'est vraiment quelque chose qu'on observe. C'est d'ailleurs assez réjouissant, hein, finalement. Je ne sais pas si, pour répondre à ta question tout à l'heure, si à 30 ans c'était comme ça. Je pense que les symptômes étaient un peu différents. Je pense que la façon de se traiter était différente. Elle était beaucoup plus analytique à l'époque. Hein. C'était voilà, l'époque des grands psys, Lacan, tout ce qui a suivi. Bon, tout ça est en évolution. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je sais pas.
Non, ouais. non, mais il n'y a pas de jugement. Mais attends, une petite parenthèse sur un truc qui m'intrigue. Le vertige, est-ce que les causes sont toujours les mêmes?
Oula, le vertige,
je suis désolée de te poser cette question qui n'a rien à voir, mais je me suis toujours posé la question, c'est est-ce que les gens qui ont le vertige.
Oui.
ont tous les mêmes, enfin, est-ce que les causes sont tout le temps les mêmes malgré les gens?
Non, le vertige, c'est une question très compliquée. Alors déjà, la première question qu'on pose à quelqu'un qui vient pour le vertige, c'est est-ce que vous avez consulté un ORL? Est-ce que c'est pas
un
truc
physique,
d'oreille interne, ouais. en fait? Tout simplement, hein, parce que et on n'est pas médecin, hein, nous, hypnothérapeutes, pas du tout. Hein. Donc le vertige, si on entend vertige par peur du vide, c'est une forme de phobie, en quelque sorte. Hein. Voilà. Donc, oui, c'est souvent assez psychologique. Il y a des cas très intéressants là-dessus. Ça peut être soigné en une séance. Ça peut être soigné en plus parce que ça parle voilà, d'une espèce de transmission qu'on a pu recevoir familiale, etc. Il faut aller un peu plus loin pour comprendre de quoi il s'agit.
C'est intéressant ce que tu dis sur la peur du vide, ouais. C'est très intéressant.
Oui, et puis c'est métaphorique, la peur. Ouais. En fait, c'est pour ça que je dis l'approche par symptôme, il faut aussi lâcher là-dessus. Il n'y a pas de protocole de vertige parce que ça peut parler de beaucoup de choses différentes.
Bien sûr. Est-ce que l'hypnothérapie...
Oui, ça s'appelle comme ça. Oui, oui.
marche aussi sur les enfants. Alors, tu vois, je me suis toujours demandé s'il y a des mamans ou des papas qui nous écoutent, est-ce qu'ils peuvent, envoyer leurs enfants?
Ça marche très, très bien sur les enfants. Okay. Pour les cas, notamment, énurésie, enfin, pipi dans la culotte le jour, la nuit, etc. Les cas de... j'en sais rien, tellement de choses. En fait, ça marche extrêmement bien parce que...
Hyperactivité,
phobie scolaire. Ouais. Bon, personnellement, je reçois pas les enfants, je suis pas formée pour. J'espère que je le ferai un jour, mais pour le moment, je me concentre déjà sur les adultes.
J'ai suffisamment à faire.
Oui. Et oui, ça marche très bien. Après, pour de ce que je connais, en fait, les enfants sont des inconscients sur pattes, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'une séance d'hypnose pour un enfant, ça va pas être ferme les yeux, etc.
Non,
ça va être beaucoup de symbolique,
bien
en fait. C'est, on va jouer au chevalier, on va recréer une scène, en quelque sorte, et trouver une solution à ça. Par exemple, sur l'énurésie, le fameux pipi, on va donner une métaphore type il y a un chien qui va garder la porte fermée toute la nuit et qui va permettre de l'ouvrir le matin. C'est une métaphore, hein, ça peut être autre chose, mais c'est très métaphorique, très symbolique. Il n'y a pas besoin de faire une séance en tant que telle. Donc, en ce sens, ça se rapproche quand même pas mal, à mon sens, de ce que je connais, hein, parce que je ne suis pas formée pour, mais je connais un petit peu. Ça se rapproche quand même beaucoup de ce que certains psychologues peuvent faire, hein, parce que beaucoup de parents, aujourd'hui, pour les enfants, consultent un psy pour un problème un peu ponctuel, problème de sommeil, problème de pipi. Voilà, moins pour des pathologies très lourdes à soigner sur le long terme. Donc, ça pourrait se rapprocher de ce que pas mal de psys font. Bon, mais après, il y a une application spécifique hypnose qui est extrêmement efficace pour les enfants, vraiment.
On parlait de PNL tout à l'heure.
Oui.
Est-ce que ça t'embête juste de le définir tout simplement?
Oui. Alors, PNL, ça veut dire programmation neurolinguistique. Hein.
Ouais.
Bon, je ne sais pas si je suis la meilleure pour en parler, je connais un peu.
Si, tu connais mieux le sujet que moi, en tout cas.
Bon, c'est très à la mode, c'est très utilisé notamment dans les techniques de coaching, et ça se rapproche aussi, il y a beaucoup de ponts avec l'hypnose. En fait, donc, c'est un courant qui est né, courant 20e siècle, deuxième moitié du 20e siècle, c'est Bandler et Grinder, hein, les grands inventeurs de la PNL.
Okay.
En fait, ils ont remarqué que C'est très issu de tout ce courant grammaire, neuro-linguistique, qui a émergé à ce moment-là. Ils ont remarqué que la structure de langage, si elle est déplacée, pour le patient, peut permettre un déplacement inconscient. C'est très structurel, en fait, structurel. Je ne sais pas si c'est clair, parce que, en fait, nous avons tous des filtres. On a des filtres culturels, par exemple, on sait que nos cerveaux, à nous, du fait de notre culture européenne, sont formatés de façon différente que les cerveaux des Asiatiques qui ont, par exemple, leur écriture montre en un signe asiatique est capable de dire beaucoup de choses, alors que nous, on est beaucoup plus séquentiel, par exemple. C'est juste pour donner un exemple. Donc, on a des filtres culturels, on a des filtres familiaux, du fait de notre famille, blessures dont on a tous hérité, etc. Et on a des filtres neurolinguistiques. En fait, ils se sont intéressés à cette partie. Et c'est pour ça que c'est très intéressant dans le coaching. Je ne sais pas si je réponds bien parce que je ne suis pas une grande spécialiste. Mais la structure en fait, du langage permet également un déplacement, en quelque sorte, et de l'inconscient et des comportements. C'est assez comportementaliste.
D'accord. Okay.
Je ne sais pas si ça répond bien.
C'est super clair. Mm-hmm. Non, c'est très, très clair.
Voilà. Et donc, ça s'appelle programmation, PNL, parce que, en fait, leur grande idée, ça a été de déprogrammer ce qu'on appelle des métamodèles, en fait. C'est des modèles de pensée pour les reprogrammer différemment.
D'accord.
C'est hyper technique. Enfin, on appelle ça violation du
métamodèle. Non, mais ça veut dire qu'en gros, il faut changer le langage de quelqu'un, c'est ça ?
La structure de langage. Le langage, je ne sais pas si on est capable de le changer. En tout cas, c'est leur hypothèse à eux qu'on peut changer une structure de langage, une façon de penser, et la déplacer pour permettre une réorientation. Finalement, c'est encore une fois comment réorienter les choses pour permettre à la personne qui est bloquée, qui est dans une espèce d'issue, de voie sans issue, d'aller vers son chemin.
Mais j'adore cette explication, c'est la première fois qu'on m'en donne une comme ça, tu vois.
Bon, je ne sais pas si des puristes de la PNL...
Non, mais c'est bien de... Et je trouve que c'est intéressant de t'entendre toi sur ce sujet, parce que tu as du recul et que tu as ta spécialisation à toi, donc c'est intéressant de t'entendre là-dessus.
Mais juste pour finir sur la PNL, en fait... Moi-même, au cabinet, j'utilise beaucoup d'outils issus de la PNL. Et je les utilise de façon hypnothérapeutique. Donc, c'est-à-dire que la seule différence, c'est que je mets la personne peut-être un petit peu plus en transe. Mais ils ont découvert vraiment, les PNListes, on leur doit énormément, des façons de penser, justement, pour changer de niveau. En fait, toute l'idée, c'est de changer de niveau de pensée. C'est Einstein qui disait, il y a toujours une solution à quelque chose, il suffit de changer de niveau de pensée, en quelque sorte, de niveau logique, en fait. Bon, les PNListes, ils ont des protocoles objectivement ultra efficaces pour ça, et c'est vrai que c'est très libérateur. Bon, nous, on les utilise plus de façon hypnose, les PNListes, PNL, mais finalement, ça reste la même façon
donc
de faire.
Donc, c'était intéressant qu'on en parle.
Oui, très. Et ça rejoint le point que l'hypnose peut avoir des applications type coaching, qui sont très, très intéressantes également.
Justement, tu n'en parles pas si tu n'as pas envie d'en parler. Qu'est-ce que ça fait de trouver sa voie ? Alors, je reviens sur la question, c'est-à-dire que en amont de l'épisode, j'ai précisé qu'on se connaissait par nos petites carrières, enfin notre précédente carrière, on va dire ça comme ça, parce qu'on est encore relativement jeune. Enfin, jeune, on n'a pas 85 ans, mais qu'est-ce que tu ressens, toi, aujourd'hui ? J'ai la conviction que tu as trouvé ta voie parce que je t'ai connue auparavant. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui ne se sent pas vraiment à l'aise dans son parcours professionnel, qui se dit « ouais, je fais ça parce que j'ai peur de demain, que j'ai peur de manquer d'argent, que j'ai peur de ne pas avoir d'autres... » Parce que toi comme moi, on a été habitués au salaire.
Oui, bien
sûr. C'est un truc qui est compliqué, tu vois. Et vu que dans l'audience, il y a quand même pas mal d'entrepreneurs qui écoutent le podcast, je pense. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, tu vois, pour faire ce virage, pour prendre ce virage professionnel ?
C'est une vraie question. C'est la question de la reconversion, la question du désir, en réalité. Bon, déjà, je ne sais pas si je suis dans ma voie. En tout cas, je suis dans un moment dans ma vie, effectivement, dans une voie qui me plaît énormément, qui me correspond. Mais de la même façon que quand on s'est rencontrés, je considère que j'étais très heureuse.
Bien sûr.
Et toi aussi, Donc, aussi pour démystifier les choses, décomplexer les gens. Je considère vraiment qu'on a tous plein de choses à vivre.
Mais c'est une suite de parenthèses.
D'une succession de désirs et comment on décide de les orienter. Le conseil, je ne sais pas si j'ai de conseils à donner, mais c'est extrêmement bateau et en même temps, c'est extrêmement difficile. C'est en fait d'être capable de s'écouter. Et je considère que quand on s'écoute, quand on se connaît, quand on accepte de faire un travail intérieur, je prône aussi ma paroisse, en quelque sorte, c'est faire un travail intérieur. Bon, il y a bizarrement, on dit qu'on crée sa réalité, il y a bizarrement tout d'un coup quelque chose qui va se débloquer, une rencontre, une bonne coïncidence qui fait que ça va être le moment de quitter le monde de l'entreprise, parce que ça se fait comme ça, et que tout d'un coup on va lire un truc, et que tout d'un coup machin. Voilà, c'est d'être ouvert, en fait. Le conseil que je donnerais, d'ailleurs, c'est finalement le but de la thérapie, hein, c'est vraiment l'ouverture maximum. C'est pas facile, hein, d'être ouvert, c'est d'être ancré, c'est d'être ouvert, c'est d'être sur son chemin, c'est de...
C'est vrai que
ça
c'est pas
paraît
facile.
Très bateau, hein, je suis d'accord.
C'est pas facile parce que ça peut faire peur, effectivement.
Oui, bien sûr. Le désir est toujours effrayant, hein, parce que voilà, les choses sont plus complexes que ça. Et justement, dans ce sens, je réfute un petit peu le courant très, très psychologie positive d'aujourd'hui où on se regarde dans le miroir, on dit qu'on est que tout nous réussit. Ben non, c'est pas comme ça. La vie est plus complexe que ça. Voilà, c'est une rigueur intellectuelle, c'est du travail et vraiment le thérapeute ou l'entrepreneur ou enfin lui-même n'est pas exempt de douleurs, de moments difficiles. Oui, c'est difficile et en même temps bon, c'est comme ça, hein. Je sais pas si ça répond à...
Ah mais ça répond clairement mais en tout cas, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu as fait.
Oui.
Et je te le dis indépendamment du fait que
je te remercie. Non, la seule chose hein, quand même pour rassurer les gens, c'est que voilà, ça a toujours bien marché au cabinet. Enfin, le démarrage, forcément, c'est un démarrage, donc on essaie de se faire connaître, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, quand on est dans son truc, bah ça marche
ça
en fait. Hein.
Voilà,
ça marche pas tout le temps super bien. Il faut accepter. C'est vraiment la problématique de la reconversion. Hein. Je pense que t'as beaucoup plus de gens intéressants que moi pour en parler. Il faut tenir, s'accrocher et savoir pourquoi on fait les choses. Ouais.
Je suis d'accord. Annick, ça va faire bientôt. Ouais. Plus de 50 minutes.
D'accord, bah le temps passe si vite.
J'ai coutume de demander à mes invités un coup de cœur et un coup de gueule.
Oui.
T'es pas obligé de répondre si t'as pas envie. Parce qu'il y a des gens qui disent j'ai pas de coup de gueule ou j'ai pas de coup de cœur, mais est-ce que t'en aurais par hasard ?
Oui, enfin, alors le coup de gueule, je vais commencer par le coup de gueule pour finir sur une note positive avec le coup de cœur. Le coup de gueule, c'est que je constate, enfin, encore une fois, rien de révolutionnaire à ce que je vais dire, mais on vit dans des sociétés qui sont dures, hein, qui sont injustes. On veut à tout prix, c'est un peu la culture de la win, c'est un peu la culture de la performance, du fait, voilà, des réseaux sociaux, du fait du regard des autres, du fait de la société hein, dans laquelle on vit. Bon, c'est comme ça, hein, c'est pas que français, hein, c'est quelque chose de mondial, et ça crée, de ce que je constate, beaucoup de frustration, beaucoup de castration, beaucoup de malades. Ça peut créer une forme de repli. Hein. Donc c'est cette espèce de climat, bon, qui personnellement ne me satisfait pas. Tout ça mêlé, voilà, aux problèmes écologiques, etc. C'est dur. Hein, voilà. Le coup de cœur, c'est le revers de ça. Hein. C'est que l'homme, justement, reste là. Mais c'est ça qui est merveilleux, hein, justement, à constater. Il n'y a jamais eu autant de gens qui sont en reconversion, qui justement sont en quête de sens, qui font des initiatives incroyables, à commencer par ton podcast et la caisse de résonance que ça peut avoir. C'est-à-dire, je crois beaucoup hein, personnellement au message, et c'est ce que j'essaie de faire au cabinet quelque part, hein, c'est 1+1+1 égale 7 milliards en fait à la fin. Hein. C'est-à-dire que voilà, ça c'est possible, c'est quelque chose qui existe. Il y a une espèce de ce que je constate, et je trouve ça vraiment réjouissant, d'ouverture hein, de chacun. Du fait de... C'est un peu dialectique, hein, ce que je t'explique. Thèse, antithèse, synthèse. Il y a quelque chose qu'on peut espérer se passer de façon positive.
Si tu devais recommander un livre sur ton travail, enfin sur ton domaine, mais qui est accessible.
Oula.
Je sais que c'est compliqué parce que c'est très technique en général, mais je sais pas, un truc, tu vois, pour quelqu'un qui a envie de s'y intéresser sans trop rentrer dans les détails.
Oui.
Tu aurais une référence. Et c'est même pas obligé d'être sur ton domaine à toi. C'est quelque chose qui peut-être a été un livre d'ouverture vers ce que tu fais maintenant, tu vois.
Comme ça, hein. J'ai pas de lecture qui soit très vulgarisée en tête, malheureusement. Hein. Voilà, je dirais que ce qui est intéressant en ce moment, hein, si on veut s'intéresser à ça, bon, il y a le grand livre Hypnose d'Olivier Lockhart, mais objectivement,
c'est lourd.
C'est une succession de protocoles, enfin c'est complexe, mais bon, c'est très beau. Il y a un livre, je pense, qui peut intéresser les gens, l'introduction de ce livre, encore Olivier Lockhart, c'est son livre qui s'appelle Hypnose humaniste, qui est un livre blanc, enfin il me semble. Voilà, toute l'introduction est très intéressante, elle pose bien les principes d'aujourd'hui, enfin de l'hypnose humaniste, ce que c'est aujourd'hui, et après ça, on peut rattacher tout un courant de pensée, on peut lire, j'en sais rien, personnellement j'apprécie beaucoup Mathieu Ricard, en fait, il y a tellement de choses, j'ai pas un livre qui m'aurait plus marqué, c'est plus une espèce de recherche.
J'aime bien, au moins tu donnes des références.
Oui, j'incite quand même vraiment chacun voilà, à s'intéresser au maximum. Je trouve que c'est intéressant de lire Freud, je trouve que c'est intéressant de lire, j'en sais rien, la PNL pour les nuls. Enfin, il y a tellement de façons voilà, de s'ouvrir, mais très vulgarisé. Voilà, j'ai un livre quand même qui m'a beaucoup plu. dernièrement, qui n'est pas lié, hein, mais qui est lié d'une certaine façon. J'aime beaucoup la physique quantique, l'astrophysique, tout ce qui se passe, toutes les découvertes. Je trouve ça passionnant. Oui. Et justement, l'hypnose humaniste, c'est très, très relié à ces courants de pensée, d'ouverture. Enfin, voilà, on est en train de renverser le modèle newtonien classique. Ça ouvre des champs de pensée très, très intéressants. Et il y a un livre que j'aime beaucoup qui est écrit par deux astrophysiciens, je ne sais plus comment il s'appelle, et par un scénariste que tu connais peut-être qui s'appelle Carrère. Ce n'est pas Emmanuel Carrère, mais c'est, je ne sais plus
très
son
bien.
Prénom.
Ça s'appelle son prénom aussi.
Du nouveau dans l'invisible. Alors, je crois qu'il est réédité de façon régulière parce que, en fait, on en découvre à chaque fois un peu encore des nouveautés. Voilà, c'est un livre, c'est des questions-réponses, c'est un dialogue à trois, c'est très, très accessible.
Okay.
Personnellement, ça m'a beaucoup marqué. Voilà, c'est pas lié directement, mais je trouve que c'est très intéressant d'ouvrir les choses par cette perspective.
T'as bien raison, parce que tout
perspective.
Se recoupe.
Exactement.
Il faut savoir faire des liens.
C'est ça, et ça montre justement que ce qu'on appelle l'invisible, finalement, reste un domaine mystérieux, mais qui est accessible. Donc, c'est assez mystérieux.
Alors je vais adorer. Je te dirai ce que j'en pense.
Voilà, ça correspond à des choses que je trouve très très intéressantes sur les découvertes d'aujourd'hui.
Alix, on va finir l'interview. Est-ce que tu veux donner des coordonnées? Est-ce que tu veux, si quelqu'un a envie de te contacter?
Oui, alors donc je m'appelle Alix Georges, sans S, Georges. Si on Google Alix Georges, hypnothérapeute, j'ai un site internet. Tout est accessible. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, comme tu sais.
Je trouve ça vachement bien. Moi, j'aime bien.
Et donc, mais je suis tout à fait joignable. Mail, téléphone. Et je suis ravie si des personnes souhaitent ou pratiquer ou simplement me poser des questions. C'est vraiment avec très, très grand plaisir. Mmh. Également pour parler de reconversion. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec chacun.
C'est ce qu'on va faire maintenant.
Oui, merci infiniment de me donner cette opportunité de parler de cette pratique.
Merci à toi, Alix. Ouais. Merci beaucoup. Et
c'est
puis,
moi qui te remercie.
À toi.
Et à toi également, et à tous tes auditeurs.
Merci.
Merci.
Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez réagir, me contacter ou me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.